Aujourd'hui, 31 juillet, nous célébrons un saint important, une fête importante, celle de Saint-Ignace de Loyola. Abbé Philippe Aïtéa, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un saint du Pays Basque, originaire du Guipuscoa. Il est né en 1491
Exactement.
et il est décédé à Rome en
1556.
Ce saint a fondé la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Comment Ignace de Loyola est devenu un saint? Comment Ignace de Loyola finalement s'est converti, puisque c'est quand même au centre de sa vie, c'est cette conversion qui va se dérouler d'ailleurs en Catalogne, je crois, à Manresa.
Oui, enfin, la conversion a eu quand même plusieurs étapes. Très dernièrement, le Saint-Père, le pape François, disait que un boulet de canon avait changé un peu la face du monde et celle de l'Église. On a affaire au début, si je puis dire, à, bon, c'est le benjamin d'une fratrie nombreuse, hein, donc très bien, il fait, si j'ose dire, ses premières classes un peu de militaire auprès du duc de Nareja. Et de ce point de vue, il ressemble à beaucoup d'autres, voilà, un militaire. Coureur de jupons, on pense que bon, voilà, il a eu un enfant avec une femme, lui-même ça va un peu le préoccuper, tout ça, mais quand il va se convertir, bon, parce que il ne sait pas si cet enfant est né, ce qui elle est, donc il va prier pour la mère et pour la fille, puisqu'il a perdu aussi de vue la mère. Bon. Par ailleurs, semble-t-il, un militaire scrupuleux dans le métier des armes. Il serait bien sûr très difficile de faire l'histoire de la Navarre, des litiges entre la Navarre, le roi de France, les rois d'Espagne, etc. Bon, mais c'est un peu dans ce contexte qu'il se trouve à Pampelune
1521.
en 1521. Et que, ben voilà, c'est un peu un jeu jusqu'au boutiste, alors qu'il semble bien que la partie soit perdue. Il dit qu'il faut défendre cette forteresse et.
Lui, il est du côté des Castillans, c'est ça.
Oui.
Et c'est les Français qui assiègent Pampelune.
Qui assiège Pampelune. Et peut-être un frère de Saint-François-Xavier, d'autre côté, avec les 10 Français. Enfin bon, c'est une histoire d'alliance. Bon. Quand vous allez à Pampelune, on voit sur un trottoir. L'endroit où, selon la tradition, ben voilà, elle aurait été blessée.
Qu'est-ce qui se passe? C'est un boulet de canon
Or,
qui...
un boulet de canon va donc briser sa jambe. Bon, donc, il est hors service. La citadelle est prise et les Français vont quand même faire soigner.
Et on le rapatrie à Loyola.
On le rapatrie à Loyola. Alors, bon. C'est un garçon coquet, il paraît qu'il était très mignon, voilà. Quand on brise une jambe, ça, on n'a pas les techniques d'aujourd'hui pour reconstituer, donc il va vouloir trois de ces opérations pour ne pas être trop boiteux, quoi, et continuer à plaire.
Et pendant sa convalescence, il va lire.
Pendant sa convalescence, donc, il demande un peu les romans people de l'époque, là, Madis de Gaulle, un peu tout ça. Mais à Loyola, il y a peu de livres, et puis voilà, ce sont des livres pieux.
La vie des saints.
Alors, la vie des saints de Voragine, la Vita Christi, la vie du Christ de Ludolphe le Chartreux, et donc voilà, un peu pour lui, faute de grive, on mange des merles, dans sa perspective à ce moment-là, donc il va faire ces lectures-là.
Et c'est là que va commencer ce chemin de conversion.
Voilà, donc. Alors, il y a plusieurs choses. Au contact de la vie des saints, de ce qu'il lit, il fait l'expérience qu'il va ensuite, si j'ose dire, un peu théoriser, du discernement des esprits. C'est-à-dire que, voilà, quand il lit la vie des saints, ben, il est dynamisé intérieurement. Et puis, mais quand il parle, pense aux conquêtes qu'il pourra faire, aux conquêtes féminines, il est dynamisé, puis ça s'écroule. Voilà, donc il fait déjà un peu l'expérience du discernement des esprits. Et puis, il a une apparition de l'apôtre Saint-Pierre dans sa chambre. Donc, voilà, il va se tourner vers Dieu.
Et là, il part en pèlerinage.
Oui, il va se tourner vers Dieu de manière très radicale. Il ne sait pas pour le moment quelle est sa voie. Saint-Dominique fait cela, moi je vais le faire, Saint-François le fait, bon. Donc ça va être quand même très très radical. Il va faire donc une veillée d'armes à Ransassou,
Chez les franciscains.
chez Franciscain, mais surtout au sanctuaire de Notre-Dame. Voilà, donc voilà, il se met un peu comme militaire dans sa culture, il se met à la disposition de la Vierge et du Christ. Ensuite, il va vers la Catalogne, donc il ira à Montserrat, mais surtout à Manresa. Alors, où il va vivre la vie spirituelle. Alors, il va y avoir de saintes gens qui va... Bon, parce que... Voilà, il va évangéliser à sa manière, tout ça. Il va y avoir de saintes gens qui vont venir écouter, qui vont s'occuper de lui. Mais il ressent un peu le poids de ce qu'il est. Un peu, si on peut dire, ces ténèbres intérieures. Et il a la tentation du suicide parce qu'il ne voit pas trop comment tout ça peut aboutir. Quoi. Dans son logis, il y a un grand trou, on peut se jeter dans le fleuve, et il a donc cette tentation-là.
C'est à ce moment-là qu'il va écrire ses exercices spirituels ou plus tard?
Alors donc, ça c'est un tout petit peu la tradition un peu légendaire. On voit la Vierge Marie qui dicte les exercices spirituels à Saint Ignace, c'est représenté sur des cadres. C'est plus complexe. On a retrouvé, il y a déjà un certain temps, on a retrouvé du prieur de Montserrat une espèce de cahier où ce prieur faisait méditer les épisodes de l'Évangile. Donc, il est bien sûr qu'Ignace en a eu connaissance. On pense qu'Ignace en a eu connaissance et qu'il s'en est inspiré. Ceci étant, passe à travers les exercices plusieurs choses. D'une part, voilà, le fait de se déterminer, les deux étendards, bon, c'est un militaire qui écrit. Le fait que, en méditant les mystères du Christ, non seulement on entre dans la connaissance de Jésus-Christ, mais on est travaillé par la grâce, le discernement des esprits. Alors là, c'est la touche ignatienne. Mais il n'a pas créé tout ça à partir de zéro.
Ensuite, il part en pèlerinage en Terre Sainte, et de Terre Sainte, il va se rendre à Paris.
Voilà, il va se rendre à Paris, un vieil étudiant, faire des études de théologie, où il va rencontrer Pierre Favre et François Xavier.
Celui-là même qui était en Navarre, au siège de Pampelune, enfin, dont la famille était originaire.
Voilà, il dit que ça a été la patte la plus difficile à malaxer qu'il ait eue. Bon. François lui doit un peu sa conversion.
Et le 15 août 1534, ils font des vœux.
Voilà, donc ils fondent à Montmartre, une petite église de Montmartre, la compagnie de Jésus.
Et ensuite, ils se mettent au service du pape.
Alors, ils veulent aller à Jérusalem, et le pape les reçoit dans un repas. Tandis que le pape mange, on fait de la théologie. Le pape Paul III est séduit par ce qu'il entend. Et il va leur dire, écoutez, à Jérusalem, il y a mieux à faire ici. Bon, c'est la réforme protestante, enfin, tout ça. Donc ils vont se mettre au service du pape. Et donc l'apostolat d'Ignace va être quand même... Bien sûr, il y aura la compagnie qui ira en mission, mais Ignace va s'occuper aussi des pauvres à Rome, des prostituées, vous voyez, un peu tout ça. Et une immense correspondance avec les uns et les autres, des milliers de lettres.
Ignace restera finalement à Rome.
Ignace restera à Rome. Son rayonnement, c'est à partir de là que ça va se faire.
L'ordre des Jésuites va avoir un essor assez important.
Alors, l'ordre des Jésuites, au début, c'est une petite compagnie, mais effectivement, ils vont recatholiciser l'Allemagne. Chez nous, recatholiciser le Béarn. Voilà, le lycée de Pau, c'est l'ancien collège des Jésuites. Puis, à travers les exercices, quand même, permettre à des gens d'accéder à la vie spirituelle, de se convertir au Christ, de trouver leur vocation et ce genre de choses.
Il va être canonisé avec Saint François Xavier le 12 mars 1522 par le pape Grégoire XV. Et cette année, on célèbre le 4e centenaire donc, de cette canonisation d'Ignace de Loyola et de Saint François Xavier, et aussi...
les 500 ans aussi de sa conversion. Vous voyez, c'est un peu à cheval. Les 500 ans, sa conversion, et donc sa canonisation un siècle plus tard, à peu près.
Voilà, et signalons que cette année a débuté une année ignatienne, le 20 mai 2021 dernier, pour justement marquer l'anniversaire de sa blessure à Pampelune, et que cette année ignatienne sera clôturée le 31 juillet 2022, donc le jour de la fête de Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup, Abbé Philippe Beiter, de nous avoir résumé, parce qu'il y aurait eu bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, la vie de Saint-Ignace de Loyola que nous fêtons aujourd'hui. Merci beaucoup.
Au revoir.